voulez que tout le monde ait des chars électriques, mais vous vous demandez de baisser notre chauffage. Encore des incohérences de merde.
Vous êtes rendu que vous mettez les pannes et bris d'arbres sur la faute des changements climatiques avec des bonhommes qui pleurent de rire.
Mais j'étais ici il y a 65 ans, il y avait du verglas. Souvent beaucoup plus que là.
Ici Francis Labbé, bienvenue à cet autre épisode de la série « Votre tweet est important pour nous » où on répond aux questions que vous nous posez souvent sur les plateformes de médias sociaux. Par ordre d'année de naissance, M. Pierre-Alexandre Buisson, bonjour.
Bien, en fait, toi, Francis, t'es peut-être né avant moi.
C'est vrai, mais je me suis déjà nommé, donc...
Mais quand même, bonjour.
Bonjour. M. Jonathan Côté.
Salut.
Et Gabriel Leblanc.
Salut.
Autour de la table, on a aussi M. Jean-Philippe Martin.
Salut, Francis.
Jean-Philippe, on vous présente comme conseiller de développement durable, mais pour les intimes, expert changement climatique.
C'est pas mal ça, c'est pas mal. Je réponds à ces deux titres-là.
C'est une activité importante à Hydro-Québec.
Oui, oui, c'est important. Ça fait longtemps qu'Hydro-Québec se préoccupe de ça. Puis à l'interne, il y a un engouement pour cette question-là dans les équipes aussi. Là.
Avant d'aller plus loin dans le développement de ce sujet-là, on a des informations qui nous ont été acheminées, vous concernant, M. Martin. D'abord, vous venez au bureau en courant, n'est-ce pas? À aller reconduire les enfants à la garderie en vélo aussi?
En courant ou à vélo aussi. Souvent à la course, le matin, on est généralement à la course, oui.
Et à travers ça, vous faites de l'escalade?
Je fais de l'escalade aussi, oui.
Donc, question complémentaire, est-ce que vous êtes un peu actif dans la vie, M. Martin?
Légèrement.
Un hyperactif.
On a des commentaires. Évidemment, le concept de cet épisode, c'est qu'on vous soumet des commentaires du public. Et puis, si je ne m'abuse, Jonathan, un commentaire pour vous?
Ben oui, Denis nous disait « Bravo pour les travailleurs d'Hydro, vous êtes essentiels. Cela dit, il apparaît évident que nous ne sommes pas prêts à affronter d'éventuelles catastrophes, que d'aucuns nous promettent en fonction des changements climatiques déjà en marche et qui ne s'arrêteront pas, même si tous les Québécois changeront leur voiture pour des électriques. Une sérieuse réflexion s'impose. Réflexion s'impose par rapport au changement climatique. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On réfléchit-tu là-dessus chez Hydro?
Bien, on réfléchit là-dessus. Denis a absolument raison. Une réflexion s'impose. Dans le dernier rapport du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur les changements climatiques, c'est vraiment mentionné que si on veut réussir notre adaptation, il faut que cette adaptation-là se fasse de façon intégrée, c'est-à-dire en cohérence entre le milieu municipal, les différents paliers de gouvernement, tous les acteurs de la société, dont Hydro-Québec. Donc, oui, une réflexion s'impose, mais Hydro-Québec tente de faire sa part depuis 20 ans en participant à la recherche sur les changements climatiques. Ils ont cofondé le consortium Uranos, qui est un acteur mondial dans la recherche sur l'adaptation au changement climatique. Puis en plus de ça, bien, on s'est doté d'un plan d'adaptation aussi pour faire notre part pour ce défi-là.
On sait qu'on fait déjà beaucoup de choses pour essayer d'amoindrir, dans le fond, de ralentir les changements climatiques avec la transition énergétique, par exemple, mais là, on parle d'adaptation. Donc, c'est de constater qu'il y a des changements climatiques, il y en aura, peu importe ce qu'on réussit à faire pour les amoindrir. Donc là, c'est plus de dire comment on va réagir à ça.
Bien, exactement, parce que ce qui va se passer, le réchauffement du climat qu'on va vivre dans les prochaines décennies, c'est causé par les émissions de gaz à effet de serre qu'on a déjà produites, donc dans les dernières décennies. Donc, chose certaine, indépendamment, même si aujourd'hui on arrêtait complètement nos émissions, d'ici 2040-2050, le climat va se réchauffer.
Est-ce que ça revient à dire, comme le prétendent certains internautes qui commentent sur nos plateformes, que ça sert à rien de faire des efforts?
Non, parce que après ça, le climat, il y a de deux choses une. Si on continue comme on est parti, le climat va s'emballer, puis le réchauffement va continuer à s'accélérer. Si, au contraire, on fait nos efforts collectivement à l'échelle du globe, on va peut-être réussir à faire comme Horacio aimerait qu'on fasse, puis à planir la courbe. Donc, finir autour de 2050, avoir un climat stable.
Donc, le but, c'est qu'on change assez nos comportements pour que les prédictions actuelles soient mauvaises.
Ce serait ça l'idéal, effectivement.
Donc, on a d'autres commentaires à soumettre à notre invité, notamment celui de Tom, Gabriel.
En effet, il nous dit que c'est ça le problème avec Hydro-Québec. Se concentre sur les changements climatiques et mettre ça sur le dos de ceux-ci. Mais j'étais ici il y a 65 ans, il y avait du verglas. Souvent beaucoup plus que là. N'oubliez pas le verglas. S'il y a quoi, 30 ans déjà, structurez-vous et go.
Ah, c'est ça le problème.
C'est ça le problème. Étais-tu là, toi, il y a 65 ans? Je présume que non.
Non, mais peut-être que Francis pourrait nous en parler.
Mais même pas besoin de remonter à il y a 65 ans. Hein? On parle, je pense qu'il mentionne le verglas de 98. Donc oui, il y avait déjà des événements météo importants à l'époque. Donc pourquoi les gens ont tendance à pas croire
Ce qui arrive, c'est que, oui, des événements extrêmes, il y en a toujours eu. Il va continuer d'en avoir. La différence, c'est peut-être leur fréquence. À quelle fréquence on va en avoir. Cette année, par exemple, c'est une année assez exceptionnelle. Hein. Il y a eu... On est présentement dans les feux de forêt. On a eu le verglas en avril dernier. Il y a eu les pannes en décembre. Il y a eu le derecho en mai dernier. Mais avant ça, il y a eu quelques années un peu plus calmes. Et c'est pas parce qu'on a eu 4, 5, 6 événements majeurs cette année que l'an prochain, ça va être la même chose. Ce qui est difficile quand on travaille en changement climatique, c'est que ces événements-là sont imprévisibles. On va avoir des années où ça va être plus important, des années où ça va être moins important. Mais chose certaine, leur fréquence augmente dans le temps.
C'est difficile d'attribuer, j'imagine, dans ces événements-là, qu'est-ce qui sont des événements un peu fortuits, qu'est-ce qui peuvent être liés avec les changements climatiques. Comment on fait pour comme se faire une tête parmi toutes ces choses-là?
Bien, c'est difficile, puis c'est d'autant plus difficile si on se fie à nos souvenirs. Moi, je me souviens, cet hiver, je voyais mon petit gars de 4 ans à côté d'un banc de neige qui était aussi haut que lui. Mais c'est sûr que quand il va être grand, il va dire « Quand j'étais jeune, les bancs de neige sont aussi, ils étaient aussi haut que nous. » Ben oui, mais... tout est relatif. Donc, on ne peut pas se fier seulement à nos perceptions, parce que nos perceptions changent dans le temps. Donc, effectivement, de plus en plus, il y a des chercheurs qui s'intéressent à ça. Est-ce qu'un événement donné est causé par les changements climatiques ou est plus probable à cause des changements climatiques qui ont déjà lieu par rapport aux données du passé. Donc, c'est une science qui est en cours, puis on est capable, par exemple, les canicules qui avaient eu lieu en Colombie-Britannique en 2021, on était capable de dire, bien, en climat historique, des températures comme ça, on a peut-être une chance sur 1000 d'en avoir, alors que présentement, c'est une chance sur, je me rappelle pas des chiffres exacts, mais peut-être une chance sur 100. Et si le climat continue à s'emballer comme c'est le cas, autour des années 2050, ça va peut-être être une chance sur 10, une chance sur 5. Donc, pour certains événements, on est capable d'attribuer.
On peut difficilement le faire pour chaque événement, mais on peut dire de manière générale, statistiquement, ça va devenir plus fréquent. Puis si on regarde, par exemple, récemment, on parlait de feux de forêt beaucoup. Est-ce que, justement, le fait que le climat se réchauffe, qu'il y aura peut-être plus de sécheresse, ça sera plus probable? Ça, c'est quelque chose qu'on risque de voir plus souvent.
En effet, ça en est un autre. Ou est-ce que la science du climat est assez claire comme quoi, bien... Dans un climat plus chaud, il y a plus d'évaporation, donc on peut avoir plus de sécheresse. Dans un climat plus chaud, en plus, les espèces végétales peuvent croître plus rapidement, donc on a plus de carburant pour les feux de forêt. Donc, effectivement, ce qu'on prévoit, c'est que dans la ceinture boréale, toute la forêt boréale, la forêt de conifères, on va avoir davantage de feux de forêt, puis des feux de forêt possiblement d'une plus grande ampleur.
On le sait, les feux de forêt, ce qui est arrivé, là, c'est que ça a déclenché des mécanismes de protection sur notre réseau, dans les régions assez éloignées là, de Montréal et du centre.
Donc, mécanisme de protection, ça veut dire comme un breaker en bon français?
Un bon breaker sur le réseau pour éviter justement les pannes de longue durée. J'ai décidé d'aller lire les commentaires Twitter en lien avec justement ces déclenchements là sur le réseau qui ont provoqué des pannes. Juan nous avait écrit « Deux pannes en deux jours, bravo, 100% de réussite. À NDG, c'est la 6e panne de l'année, puis mon voisin en face a l'électricité chez lui. Alors, est-ce qu'il est sur une autre ligne qui descend de la Côte-Nord jusqu'à chez lui? » Donc, évidemment, les gens ont peut-être du mal à faire le lien entre la Côte-Nord et qu'est-ce qui se passe à Montréal. Un autre, Fonzine, qui avait écrit « Pas de vent ni d'orage, vous prenez vraiment le monde pour des caves. C'est quand même... très ordinaire, parce que c'est en majuscule, je voulais vous le rapporter comme Elune l'a écrit, de plonger un quart de million de Québécois dans le noir en pleine calicule, par mesure soi-disant préventive, franchement. Donc là, peut-être qu'elle pensait qu'on avait déclenché une panne pour protéger le réseau. Écoute, c'est difficile à dire. Alors, je vous laisse avec des petites poésies de mon cru pour résumer le plan d'adaptation au changement climatique. En réponse à tous ces gens qui doutent, en fait, du lien entre les changements climatiques, la Côte-Nord, le réseau de distribution et ce qui se passe dans leur salon, j'aimerais leur dire, il n'y a peut-être pas le feu dans mon salon, mais je brûle d'envie de vous dire qu'on a le feu aux fesses. Avec notre plan d'adaptation climatique, on a le feu sacré. On va faire flèche de tout bois pour nous assurer de ne pas jouer avec le feu. En effet, l'objectif est que nos clients n'y voient que du feu, malgré d'importants événements climatiques. J'en ai un dernier pour vous. Je suis tellement convaincue de la pertinence du PAC que je mettrai ma main au feu concernant le succès de son application.
Okay, ouais, j'avoue que ça a de la musique aux oreilles de PA, grand fan de poésie.
Elle est en feu.
Ouais, vraiment. Voilà. Très lyrique.
On dit aussi que dans les prochaines années, il y aura probablement davantage de précipitations au Québec en général.
Oui, il va y avoir plus de précipitations. Donc, on va avoir des période plus humide, mais on peut avoir aussi, dès qu'il n'y aura pas de précipitation dans un climat plus chaud, plus de sécheresse. Donc, peut-être davantage de variabilité aussi entre ces deux extrêmes-là.
Un autre commentaire à soumettre à notre invité, Pierre-Alexandre?
Oui, on a un commentaire d'Élise qui dit « Vous êtes rendu que vous mettez les pannes et bris d'arbres sur la faute des changements climatiques avec des bonhommes qui pleurent de rire. »
C'est toujours un peu délicat de dire cet événement-là est causé par les changements climatiques. Ça, effectivement, je donnerais raison à Élise. Chose certaine, c'est un mélange. On a davantage de Québécois partout sur le territoire. Hein, la population du Québec augmente, donc on a une plus grande portion de notre réseau qui devient exposée. Et il y a plus d'événements météorologiques extrêmes. Donc, les deux ensemble, c'est sûr que ça fait en sorte qu'on peut avoir une augmentation des bris, des pannes. Mais c'est sûr que dire un événement particulier, le verglas d'avril dernier, c'était causé par les changements climatiques, c'est un raccourci.
Mais généralement, on va pas mettre le lien justement sur un événement particulier. Par contre, ce qu'on va dire, c'est que ça peut devenir plus fréquent un peu.
En effet, ça fait partie des défis auxquels il va falloir faire face.
Puis, il y avait aussi un moment donné où on expliquait que les arbres poussaient plus rapidement qu'avant avec les changements climatiques. Puis on sait que pour nous, la maîtrise de la végétation, c'est un enjeu particulier. Donc, en effet, sans tout lier au changement climatique, il y a plein de petits impacts comme ça qui vont venir affecter la qualité du service.
Bien, exactement. Puis les arbres, c'est pas toutes les espèces dans tous les contextes, mais certaines espèces d'arbres vont pousser plus rapidement. Mais à l'opposé, dans certaines régions, on va peut-être avoir plus de feuillus parce qu'il fait plus chaud au lieu d'avoir des conifères. Les feuillus ne poussent pas au même rythme. Et donc, il n'y a pas une réponse unique non plus à un problème pour tout le Québec partout. Donc ça,
j'en comprends, c'est que ta job est très stressante.
Stressante, je ne sais pas, compliquée, oui.
Des inquiétudes liées au changement climatique de votre côté, M. Martin, vous, en tant que conseiller expert?
Bien, si j'en avais, je ne dormirais pas la nuit, mais on est dans un monde de plus en plus interconnecté. Il y a un certain temps, un an ou deux, il y a eu une grosse tempête de verglas au Texas, puis il y a certaines usines qui ne pouvaient pas fonctionner et il y a eu des pénuries de matériaux jusqu'au Québec. Donc, ce qui se passe loin de nous, ça nous affecte, que ce soit justement dans notre réseau électrique. Ce qui se passe près de nos réservoirs, près de nos lignes, ça va affecter l'électricité qu'on soit dans le sud, ça c'est certain. Mes parents, ils attendaient des portes de maison, ça a pris beaucoup de temps à les recevoir. Ils étaient pris dans le canal de Suède quand le bateau était de travers. On est dans un monde de plus en plus interconnecté, ce qui fait en sorte que des catastrophes vont avoir des effets en cascade comme ça. Puis en plus de ça, avec les changements climatiques, ce qu'on peut voir, c'est qu'ils peuvent s'empiler aussi. On peut avoir des inondations maintenant qui sont plus longues au printemps, puis des canicules qui arrivent plus tôt au printemps aussi. Donc, on peut avoir des inondations puis des canicules qui se chevauchent. Au début de la pandémie, le premier été de la pandémie, s'il y a des canicules, on veut mettre les gens dans des îlots de fraîcheur, mais on n'a pas le droit de sortir de chez nous. Qu'est-ce qu'on fait? Donc, de plus en plus, on a cet empilement-là de catastrophes dû au changement climatique, dû à d'autres choses, dû à la cybersécurité ou n'importe quoi. Puis, ça fait en sorte que c'est des défis qui sont complexes.
On pourrait connaître des inondations et de la sécheresse en même temps, comme le territoire est si grand ici, dans le fond, il y a quand même...
On pourrait, effectivement. On pourrait avoir des inondations dans une partie du Québec, puis d'autres endroits où il manque d'eau.
On peut l'illustrer facilement avec une espèce de parabole qui nous arrive fréquemment quand, mettons, il y a du verglas dans un quartier, puis les gens sont en panne, puis là, ils disent « J'ai pas vu d'arbre tomber, j'ai pas vu de camion d'hydro non plus, qu'est-ce que vous faites? » Alors que la personne ne sort pas de son salon pour prendre une marche dans son quartier.
Tout à fait. On a d'autres commentaires à vous soumettre, M. Martin. Là, Pierre-Alexandre, une question de sagesse, entre autres.
Oui, on a un utilisateur qui s'appelle Le Grand Sage. Donc, j'imagine que je peux dire son nom de famille, Sage, qui dit « Moi, je me questionne sur les changements climatiques et l'adaptation que l'on doit mettre en place. Hydro-Québec fait sa part, nous devons faire la nôtre. Perso, je suis bien préparé à des coupures. À quel point nos clients doivent s'attendre à être interrompus fréquemment dans le futur? »
On ne sait pas exactement, année après année, est-ce que ça va être une année de multiples extrêmes, une année moyenne. Donc, mais chose certaine, les catastrophes météorologiques risquent d'être plus fréquentes. Donc, si on regarde ce qui est proposé par la sécurité civile au Québec et un peu partout dans le monde, c'est les bonnes pratiques. On devrait tous être capables d'être autonomes pendant 3 jours chez nous. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Pendant 72 heures, avoir des réserves d'eau, avoir des réserves de nourriture non périssable, un radio qui fonctionne à batterie pour pouvoir avoir des nouvelles. Et ça, effectivement, et pas seulement pour les coupures d'électricité, mais pour tout ce qui peut nous arriver. Mais
ça, c'est un programme d'activité de 3 jours pour les enfants aussi.
Ben, oui, effectivement, c'est
mais
ça.
Mais tu dis on devrait tous, mais en fait, c'est dans la loi sur les mesures d'urgence. C'est une exigence envers les citoyens.
Je ne sais pas si c'est une exigence d'avoir une trousse 72 heures dans la loi, mais chose certaine, dans la loi sur la sécurité civile, il y a un article qui dit que chacun est responsable de sa propre sécurité. Donc ça, c'est dans la loi écrit noir sur blanc.
Jonathan, un commentaire à soumettre à Jean-Philippe?
J'ai Abderrahim qui dit « Avec les changements climatiques, il faut penser changer ou modifier plusieurs installations avec trois points d'exclamation. » Donc, ça a l'air bien important comme question. Bon, en fait, c'est pas vraiment une question. Qu'est-ce qu'on peut faire vraiment?
Premièrement, oui, c'est important de le faire et c'est compliqué à faire parce que jusqu'à maintenant, et ça, c'est pas juste chez Hydro-Québec, un peu partout, les ingénieurs, comment ils travaillent? Ils travaillent en regardant les données du passé, les données climatiques observées, tout ça, avec l'hypothèse que le passé est garant du futur, alors que là, on sait que c'est pas vrai. Donc, on doit trouver des nouvelles façons de travailler et travailler avec des données qui sont incertaines, finalement. Les modèles climatiques, nous, c'est des projections. On peut pas, on n'a pas une boule de cristal. Donc, c'est difficile. Mais on essaie de le faire. Puis ça peut passer par différentes façons. On peut penser changer la conception, donc changer le dimensionnement d'un ouvrage. Parfois, on va dire, ah, ben, il va y avoir plus d'eau qui va passer à cet endroit-là, donc on a besoin d'avoir un barrage qui va être plus résistant. Parfois, c'est changer les matériaux. Par exemple, les poteaux en bois, dans un climat plus chaud, plus humide, ont tendance à pourrir plus vite. Puis quand ça pourrit, ben, on peut avoir des insectes qui viennent, on peut avoir des fourmis charpentières, les pics-bois qui viennent se nourrir de ça. Donc ça, ça fait en sorte que nos poteaux se dégradent plus vite. On peut utiliser des matériaux différents, comme des poteaux en composite. C'est quelque chose qu'on fait, des poteaux en composite qui ont une durée de vie supérieure, puis qui ne sont pas attaqués par les pics-bois ou par les fourmis charpentières.
Justement, j'ai quelqu'un qui me disait, Pierre-André, qui disait « Au Costa Rica, les poteaux sont en béton. » On a-tu des poteaux en béton quelque part ici au Québec? C'est quelque chose qu'on regarde?
On en a quelques-uns. Des poteaux en béton, un... C'est lourd. Deux, c'est coûteux à faire. Troisièmement, on parle de changement climatique. Le béton, c'est un matériel qui émet aussi beaucoup de carbone, de gaz à effet de serre.
Donc, on se pèser sur l'accélérateur des changements
exactement,
climatiques.
Exactement, c'est ça.
Le plan d'adaptation au changement climatique vise beaucoup à assurer la résilience de nos installations. Puis c'était ça, dans le fond, le commentaire là, que Jonathan nous a soumis. Mais dans le plan d'adaptation au changement climatique d'Hydro-Québec, on parle aussi d'assurer la sécurité des travailleurs et du public. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ce volet-là aussi?
Ben oui, notamment, historiquement, dans le sud du Québec, on avait peut-être en 10-12 jours par année où il faisait au-delà de 30 degrés Celsius. Dans un scénario où on continue à augmenter nos émissions de gaz à effet de serre, autour de 2070, ça pourrait être 70-75 jours où il fait au-delà de 30 degrés Celsius. Donc, 2 mois et demi de canicule par année, finalement. Donc, c'est sûr que nos travailleurs qui sont à l'extérieur...
En chien orange.
Les habits de crotte de fromage sont assez, sont assez chauds, finalement. Donc, en chien orange, comme ça, bien, c'est sûr qu'ils sont limités. Ils peuvent pas travailler aussi longtemps. Ils doivent prendre plus de pauses. Sinon, bien, ils peuvent être victimes de stress thermique, coups de chaleur, etc. Donc, on a besoin de faire de la sensibilisation. On a besoin de promouvoir aussi différents matériels qu'on peut leur fournir. Des petites tentes pour qu'il y ait un endroit pour se mettre à l'ombre, des colis refroidissants, tout ça.
On a justement une Hélène ici qui nous parle exactement de ça. Elle nous dit « Ouf, il fait très chaud, 39 degrés. Je me demande comment ils font, les travailleurs d'Hydro-Québec, avec leurs bottes safety et leurs combinaisons. Respect pour eux, ils ne portent rien en dessous qu'ils me disent. Est-ce que la chienne orange va devenir le kilt nord-américain?
» Comment répondre à ça?
Est-ce que c'est vrai qu'il ne porte rien en dessous, selon un monteur lui-même?
C'est-tu ça, l'adaptation au changement climatique pour nos monteurs?
C'est d'être nu en dessous probablement. Des chiens oranges. Moi aussi, j'ai déjà entendu ça, que les gens se mettent... En fait, moi, j'ai entendu un sous-vêtement sous la chaîne orange, pas complètement nu. Je sais pas pourquoi t'irais jusqu'à... Je suis pas sûre à quel point tes bobettes sont chaudes,
on
mais...
On appelle ça En commando
et en chienne orange.
Mais finalement, c'est les choses dont tu parlais, d'avoir plus de pauses, d'être à l'ombre, des choses comme
exactement.
Ça.
Exactement.
Pour finir sur le sujet des poteaux en composite, il y a le meilleur commentaire là-dessus. Vincent nous avait écrit « J'ai lu vite, puis je pensais qu'il était écrit « poteau complotiste ».
On n'est pas rendu encore au poteau complotiste, mais je vais quand même en profiter de l'occasion pour vous amener des nouvelles de nos amis les complotistes. On a tous vu sur les médias sociaux pendant la pandémie cette montée un peu en puissance du mouvement complotiste lié beaucoup au vaccin. Mais bon, je vais revenir en septembre 2020 où j'étais dans une entrevue avec Pierre-Alexandre où on parlait de notre travail de gestion de communauté pour Hydro-Québec et je pense que malheureusement, c'est de ma faute si aujourd'hui on en voit plus sur nos médias sociaux chez Hydro-Québec parce que j'avais dit ceci. Je touche du bois, on n'a pas eu trop de complotistes qui sont venus sur notre page. Donc, je pense que c'est à ce moment précis que je nous ai comme jinxé. Oui. Parce que évidemment, on en a vu plus apparaître à la fin de la pandémie.
Okay, t'as écouté l'entrevue.
C'est clairement, c'est l'entrevue la plus écoutée, je pense, de l'histoire de nos entrevues. Donc, je vais vous montrer quelques exemples de messages qu'on a pu voir passer, justement, en lien avec ça. Une des choses qu'on voit beaucoup, c'est que la transition énergétique serait comme un outil de contrôle de la population. Donc, un exemple...
Tu ne savais pas?
Ben écoute, peut-être ça va nous être utile, finalement. Quelqu'un disait sur Twitter « Tout électrique, tous dans la marde lorsqu'il y aurait des coupures d'électricité. Cela fait partie du plan des mondialistes pour mieux vous asservir et ainsi mieux vous contrôler. Unissons-nous tous contre cet esclavage énergétique unique » avec une série d'émojis beaucoup trop longues pour que je vous l'énumère. Dans le même ordre d'idée, quelqu'un nous disait « Vous êtes drôle, vous voulez que tout le monde ait des chars électriques, mais vous vous demandez de baisser notre chauffage. Encore des incohérences de merde. » Il y a beaucoup de... C'est un thème récurrent, ça aussi. Après ça, le crédit social. Imaginez-vous pas que vous ne serez pas impacté, chers employés d'Hydro-Québec, quand on va être pris dans un système pire que la Chine communiste. Donc, il y en a qui pensent que le fait qu'on essaie d'encourager les gens, par exemple, à mieux utiliser l'électricité, c'est un glissement vers un régime totalitaire.
C'est cool de source.
Exact. Donc, la suite, il y en a qui nous parlent, je ne sais pas s'il y en a qui ont entendu parler de la théorie du Great Reset. Mm-hmm. Donc, c'est quelque chose qu'on voit souvent.
C'est difficile de l'éviter sur nos plateformes.
Absolument.
De nos jours. Hein.
Oui. Donc, quelqu'un nous disait, en fait, ça c'est intéressant parce que ça, c'était sous une publication où il y avait un extrait de notre balado. Et quelqu'un répondait à cet extrait de notre balado, la firme McKinsey en action. Donc, évidemment, je suis allé préciser, non, que ce n'était pas du tout en lien avec ça.
McKinsey n'est pas le producteur de cette
balado. J'avais répondu, bien essayé, mais ce n'est pas McKinsey qui a réalisé ce balado avec nous, mais bien la firme Obox, qui est bien plus compétente en la matière. Meilleure chance la prochaine fois.
J'ai hâte qu'il y ait une théorie sur notre balado, tu sais, des messages subliminaux qu'on met les items au milieu de la table. J'ai hâte que quelqu'un remarque tous nos efforts.
D'ailleurs, pourquoi il y a un
concombre
aujourd'hui?
Oui, c'est ça. Bien, en fait, c'est pour justement démontrer à quel point, malgré les changements climatiques, on peut quand même trouver des points positifs. On peut faire pousser très rapidement des concombres dans notre potager.
Ça vous étonne, un concombre de cette envergure à ce temps-ci de l'année? On est au mois de juin au moment d'enregistrer cet épisode.
Bien, ça montre qu'effectivement, si on veut réussir notre adaptation, il faut saisir les occasions aussi. Donc, il y a des risques liés au changement climatique, mais il va y avoir des occasions à saisir. J'en parlais tout à l'heure, il y a peut-être des endroits où la maîtrise de la végétation va pouvoir être ralenti parce que dans certains endroits, la croissance des espèces va peut-être pas être affectée positivement par les changements climatiques. C'est un exemple parmi tant d'autres. S'il y a plus d'eau, on peut se poser la question, est-ce qu'on va réussir à la turbiner, cette eau-là? Si oui, on peut produire plus. Donc, il va y avoir aussi des opportunités à saisir, puis il faut pas les manquer non plus.
J'ai un exercice à vous proposer. Donc, ça s'appelle le tweet du beau-frère, le beau-frère qui nous écrit. Et ce que je voudrais qu'on fasse en votre compagnie, M. Martin, donc on vous soumet l'idée et on travaille la réponse et ensuite on propose une réponse formelle. Alors voici ce que le beau-frère écrit. On a l'hydroélectricité, il y a des chars électriques, il y a le REM qui s'en vient. Ça va bien, là. On peut-tu se calmer un petit peu le pompon avec les changements climatiques? Donc, le beau-frère qui dit qu'on en fait peut-être assez, qu'est-ce qu'on lui répond?
Moi, je lui répondrais, quelle est votre question?
Oui, il n'y avait pas vraiment de questions. Ça arrive souvent, ça, que les gens ne nous posent pas vraiment de questions. Mais attends un petit peu, en fait, je trouve qu'il a l'air insinué qu'on a le pompon trop énervé. Il faudrait se calmer.
Oui, mais le pompon calme. On a tous l'air très calme.
Mais en même temps, on parle souvent d'urgence climatique. On ne devrait pas avoir le pompon urgent ou quelque chose du genre?
Comment va ton pompon, toi, comme expert?
Moi, j'ai le pompon actif, en tout cas, parce que, c'est ça. On a beau dire qu'on en fait assez au Québec, les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières, donc... Tout ce qu'on réduit au Québec, c'est gagné pour la planète au complet.
Donc, on a le pompon actif parce que les gaz à effet de serre n'ont pas de frontières?
Voilà, ouais.
Donc, ça pourrait être une réponse au beau-frère.
Aussi, quelle est votre question?
Donc, on pourrait dire qu'on va avoir le pompon zen, mais actif.
Ouais.
Parce qu'il nous dit de se le calmer quand même. T'sais.
On est calme, on est juste efficace.
Puis, de toute façon, quand on est en action, ça aide à être calme, justement, à baisser notre niveau d'anxiété.
C'est très bon, ça.
Donc, pour résumer le contenu de cet épisode, on est en action pour s'adapter au changement climatique. C'est pas toujours simple d'identifier quels sont les changements en question, mais on sait que des événements plutôt extrêmes risquent de se produire plus souvent dans l'avenir. Et c'est pas clair que nos ouvriers en chaîne orange travaillent avec rien en dessous.
Ah, faudrait le vérifier.
Faudrait voir comment va leur pompon.
Merci beaucoup, merci pour votre attention. Et puis, regardez bien dans la liste, il y a tout plein de sujets comme ceux-là qui seront tout aussi intéressants.